Alors, être artiste, pour moi, c'est une question de regard. Poser une loupe sur le monde et de mettre en évidence peut-être une époque qui est celle de l'artiste, mais qui peut être aussi beaucoup plus large que celle-ci, puisque ce qui est intéressant justement avec l'art et les artistes, c'est que ça... C'est assez transhistorique, c'est-à-dire qu'une œuvre, elle parle longtemps après l'époque à laquelle elle a été créée. Les œuvres qui restent, en tout cas. Donc oui, je dirais que c'est avant tout une question de regard. Et je crois que c'est toi, Isabelle, qui avais dit un jour, tu m'avais dit que pour toi, l'artiste, c'était une sorte de sismographe. Et je trouvais que c'était assez juste. Voilà, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui a aussi des... Là, je pense aux abeilles avec lesquelles j'ai travaillé, mais qui a des antennes, en tout cas, qui pourra avoir des antennes et capter, en tout cas, les turbulences qu'on peut traverser, ou les choses sur lesquelles on ne s'est pas forcément encore posé, mais que l'artiste, lui, a déjà anticipé. Ouais, quelque chose comme ça, en fait.
Vous écoutez Cube Rouge ? Le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maisonrouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter? Comment vit-on de son art? Comment parvient-on à exister en tant que créatrice? L'artiste que je rencontre aujourd'hui est Céline Clairon. C'est une artiste plasticienne dans le sens où les matériaux qu'elle emploie sont très variés. Sa pratique sort des sentiers battus par l'expérience qu'elle réalise. Elle prend ainsi des boulets de canon chinés sur Internet qu'elle enserre dans de belles plumes blanches et l'ensemble devient des volants de badminton pour géants. Et surtout, l'objet s'est chargé d'un sens totalement autre avec une connotation différente. Sa façon de créer se trouve enrichie de sa collaboration avec des artisans puisqu'elle apprécie particulièrement l'idée de réactiver des techniques et des gestuels en voie de disparition. Elle aime également prendre comme assistants des êtres auxquels on ne s'attend pas dans un tel contexte, ainsi des abeilles qui vont produire au sein de leur propre ruche des éléments que la sculptrice va réemployer dans certaines pièces. Ses œuvres proviennent souvent de la rencontre entre des souvenirs liés à son expérience personnelle, à son enfance ou à la découverte d'un objet, d'un mot, d'une histoire, d'une technique enfouie. Je lui laisse la parole. Alors, nous sommes là dans ton atelier. C'est à la fois le lieu où tu travailles, c'est aussi le lieu où tu vis. C'est le lieu donc de la création, de la mise en forme. Et comme tu es sculpteur, c'est la mise en espace aussi peut-être, ou en tout cas la réflexion sur cette question-là. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton processus de travail ?
Alors déjà, pour parler de mon rapport à l'atelier lui-même, je dirais que j'ai pas forcément un rapport quotidien à l'atelier, comme pourrait l'avoir un peintre. Je dirais que moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez nomade. Donc c'est souvent dehors de l'atelier que ça se passe. Et ça peut être lorsque je suis en déplacement pour me rendre, je sais pas, à un rendez-vous, à une expo. Donc c'est pas forcément dans l'atelier que les œuvres naissent. Je dirais que l'impulsion, elle peut se faire aussi et souvent à l'extérieur. Voilà, je pense par exemple à des pièces que j'ai réalisées qui me sont venues justement typiquement lorsque je me déplaçais. Une qui m'est venue lorsque j'étais dans le métro, Donc j'étais déjà dans un transport finalement. La vision d'une sculpture en fait qui serait composée d'un toboggan et d'une caravelle. Donc il y a cette grande installation que j'ai appelée une minute de latitude que j'avais réalisée il y a quelques années et la seconde pièce qui m'était aussi venue non pas dans le métro mais dans un train, c'était une installation que j'avais réalisée dans un grand sol pleureur. Et la pièce est venue comme ça dans une rêverie liée au voyage. Le train passait aux abords d'arbres, justement. D'abord, on est passé devant des arbres qui avaient des sortes de filets, c'était des cerisiers, je pense. Et ensuite, on est passé beaucoup plus tard devant des saules pleureurs. Donc j'ai fait une sorte d'analogie entre la chevelure et le saule pleureur. Et j'ai voulu, faire un glissement entre ce côté... très mélancolique et gracieux et du saule pleureur et le côté plus trivial du bigoudi chez la femme, par exemple. Voilà.
Mais donc, en fait, il y a la vision, l'idée, l'image qui survient et ensuite la réalisation. Comment ça se passe?
Oui, tout à fait. Alors, donc là, je t'ai cité deux exemples, mais ça ne se passe pas toujours de cette manière-là, en fait. Les pièces, elles peuvent aussi naître, donc comme je l'ai dit, de la visite même de certains musées, parce que j'adore visiter les musées d'art et d'histoire, notamment les musées d'histoire naturelle. Enfin, ça peut être vraiment des sources pour moi d'inspiration très grandes. Les livres aussi sont des sources d'inspiration très importantes pour moi.
Des livres avec images ou simplement du texte?
Alors ça dépend. Ça peut être à la fois le mot qui sert de tremplin, je dirais, ou d'impulsion comme ça, vers une métamorphose, un glissement, un télescopage, ou une image, en fait, ou les deux. C'est pour ça que le dictionnaire, par exemple, est quelque chose qui pour moi, est assez riche, parce qu'il lit forcément les deux, en fait. Donc voilà comment ça se passe au départ. C'est souvent un élément... du réel, donc un objet, un mot, une image sur lesquelles je vais rebondir. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme ça que ça va se passer, je pense, dans l'interview, c'est que je vais te parler un petit peu par rebond, un petit peu comme je travaille finalement.
Et la phase numéro 2, donc, de la réalisation?
Oui, alors j'en reviens à ta question. C'est vrai que la phase numéro 2, lorsque l'idée de départ est là, c'est vrai que ensuite je me mets... à rechercher les moyens de la mettre en forme, de la réaliser, parfois même les acteurs qui vont intervenir dans la réalisation de l'œuvre. Et donc c'est souvent une sorte d'enquête finalement entre l'idée de départ et la manière de réaliser la pièce. Et lorsque je travaille avec des artisans, donc déjà je vais dans l'atelier de l'artisan. Donc là, je me déplace et je déplace également l'atelier dans celui de la personne avec laquelle je vais travailler. Et ce qui m'intéresse, c'est à la fois la possibilité de réaliser une partie de la pièce avec lui, de par son savoir-faire, mais c'est aussi une manière de m'intéresser, moi, à l'histoire de sa pratique. Parce qu'il y a souvent ça aussi qui rentre en jeu dans mon travail, c'est qu'il y a un rapport très important à la mémoire et à l'histoire, que ce soit véhiculé par l'œuvre que je vais réaliser ou que ce soit véhiculé par les moyens qui me permettent de la réaliser. Donc parfois je réactive même des pratiques qui ne sont plus usitées ou plus utilisées, comme ça a pu être le cas par exemple avec une machine qui datait des années 50, une machine qui servait à percer les coquillages pour en faire des boutons, en fait. Je m'étais rendu compte que c'était comme ça qu'on réalisait les boutons de nacre jusqu'à l'apparition du plastique. Ça paraissait à la fois évident et en même temps complètement absurde. C'était de percer la coquille d'un coquillage, voilà, pour en prélever ce qu'on appelle des pions qui ensuite sont manufacturés de manière à en faire des boutons.
Et qu'est-ce que tu en as fait, toi ?
Moi, j'en ai fait finalement, j'ai pas gardé l'objet, j'en ai fait une photo.
Ah, d'accord.
Donc, c'était la photo d'un coquillage qui était comme ça, criblé de trous, qui était un coquillage que j'avais moi-même amené donc, dans ce musée, qui est un musée de la nacre. Et on avait réactivé cette machine qui avait été stoppée dans les années 50, en fait, lorsque les coquillages avaient été laissés de côté au profit du plastique. Mmh. Et donc, j'avais appelé cette photo « Le silence des sirènes ». C'était le titre d'une nouvelle de Kafka. Avec l'idée que de percer un coquillage, c'était une manière de lui enlever sa musicalité ou sa sonorité. Voilà.
Alors, pour rebondir à mon tour sur ce que tu viens de dire, moi, ça m'a évoqué ce que tu as dit. J'ai un atelier nomade et je me déplace. Ça m'a fait penser à Bertrand Lavier qui dit « Mon atelier, c'est les pages jaunes ». Donc, en fait, tu fais une enquête aussi et tu vas chercher la bonne personne avec qui tu vas pouvoir entamer une collaboration pour réaliser une pièce.
Oui, c'est ça. Alors, parfois, ça peut même être l'animal aussi. Ça peut être l'accident, l'animal, Enfin, c'est aussi un des acteurs importants de mon travail qui est assez récurrent. Et donc là, forcément, il y a une part beaucoup plus indéfinie et expérimentale, puisque je ne peux pas tout maîtriser, tout contrôler. Mm-hmm. Mais c'est aussi quelque chose que je recherche beaucoup dans mon travail, ce moment où ça va m'échapper, en fait. Et l'animal, c'est l'acteur parfait pour ça. C'est que,
il fait comme il veut.
Exactement. Ouais. Il fait comme il veut. Donc parfois l'animal, il intervient de manière plus métaphorique, par le biais de son image, ou lorsque je détourne certains objets, que je leur confère une forme zoomorphe ou animalisée, mais parfois je fais intervenir directement le vivant, et donc là, je laisse la nature prolonger une partie de mon travail.
Comme avec les abeilles, par exemple.
Comme avec les abeilles, voilà, exactement. Mm-hmm. Où là, j'avais laissé des sculptures dans des ruches pendant plusieurs mois. Donc, c'était des pièces qui remontent à 2005 déjà. Où là, j'avais fait une analogie au départ formelle, mais qui en fait jouait aussi de manière sémantique sur le mot, puisque j'étais partie du mot ruche et des deux illustrations qui accompagnaient ce mot dans le dictionnaire et qui présentaient à la fois la ruche de l'apiculteur et ce qu'on appelle un col rucher, qui est une collerette alvéolée portée à la Renaissance, avec sur l'image ce qui semblait être l'image d'une reine. Donc j'ai voulu faire
une association entre les deux reines.
Exactement, le rapport au pouvoir aussi de la reine et des formes. Donc c'était pas que formel, c'était aussi tout un rapport aussi à l'histoire.
Bien sûr.
Et donc les abeilles étaient intervenues, ou pas d'ailleurs, ça dépendait des années. Voilà.
Alors, dirais-tu que ce sont tes origines familiales qui ont provoqué ton envie d'être artiste ?
La seule personne vraiment qui m'y a encouragée et qui m'a emmenée voir des expositions lorsque j'ai commencé à faire les beaux-arts, c'est ma mère. Mmh. Voilà, ma mère qui a une sensibilité artistique. Alors elle, ça s'exprime plus tardivement au travers de la danse, mais
c'est elle qui m'a poussée. Tu avais déjà choisi de faire les beaux-arts.
Ouais, j'avais choisi à la fois de faire les beaux-arts, mais de faire de l'archéologie aussi. Donc les deux étaient un petit peu sur le même pied d'égalité. D'ailleurs, l'archéologie était la première au départ, puisque depuis toute petite, vraiment aussi loin que je me rappelle, 5-6 ans, j'étais fascinée par l'Égypte, par l'Antiquité. Mmh. Pour moi, c'était presque évident que j'allais faire de l'archéologie. Voilà, je passais mon temps à dessiner et souvent tout ce qui avait trait à l'Égypte. Voilà. Après, donc plus tard, quand j'ai grandi, j'ai fait des fouilles archéologiques en bénévole. Mais j'allais aussi depuis le collège au Beaux-Arts le mercredi après-midi. Donc les deux, je menais un peu les deux en parallèle. L'archéologie, elle est toujours là, ça me nourrit toujours. L'Égypte est toujours aussi présente, mais de manière peut-être plus personnelle, en fait. Donc c'est peut-être ma propre archéologie que je fais.
Et donc là, tu te souviens parfaitement, en effet, de cette oscillation entre les deux et qui se rejoignent. Mais est-ce que tu te souviens à quel moment tu as pu te dire « Ah, là, je sais que je suis artiste ».
Mais alors, ce qui est fou, c'est que j'essaye de me rappeler, mais je ne suis pas rentrée aux Beaux-Arts en me disant « Je veux être artiste, en fait ». Non, je me souviens juste du moment où je l'ai annoncé à ma mère, en fait. Je voulais passer le concours et que j'avais envie de rentrer à plein temps pour faire ce que j'aimais, en fait. C'était avant tout parce que j'aimais ça, j'aimais dessiner. Il n'y avait pas du tout ce rapport à l'objet et à la sculpture. C'est venu beaucoup plus tard aux Beaux-Arts.
C'était d'abord le dessin.
C'était vraiment que le dessin d'abord, enfin, que du dessin.
Et justement, à propos de rencontres, est-ce que tu dirais que certaines de ces œuvres, de tes œuvres sont nées de... soit de rencontres, tu le disais un peu tout à l'heure, mais aussi, est-ce qu'il y a des éléments dans ta biographie qui ont pu faire surgir certaines œuvres, ne serait-ce que, comme tout à l'heure, tu parlais de mémoire et de souvenirs.
Tu veux dire des œuvres qui m'auraient marqué ou...
Non, des éléments de ta vie ou de la vie de ta famille ou autour de toi et qui tout d'un coup ressurgissent dans une œuvre que tu retrouves par la suite en disant « Ah, mais je comprends d'où ça vient ou... ».
Dans mon travail, il y a ce rapport très souvent, donc je l'ai dit, à l'histoire, au temps, au vivant, à l'animal et... Et le rapport à la mémoire, il est extrêmement fort. Et dans mes pièces, il y a une idée de mise en suspens, de temps suspendu. Ou il y a même cette poétique de la ruine aussi, de rapport à l'antique. La ruine, c'est ça. C'est en fait, c'est ce qui est en suspens entre deux états. Donc c'est.
Là, on retrouve l'archéologie.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je crois que c'est Paul Valéry qui disait que la ruine. C'est ce qui au présent tombe, mais ne tombe pas, en fait. Donc c'est vraiment cette idée de mise en suspens entre deux états. Et la plupart des pièces, en fait, sont vraiment aussi entre, justement, le mouvement et un aspect très figé.
C'est parce que quelquefois, il y a des événements marquants qui font tout d'un coup, qui sont à l'origine d'une pièce, mais là, toi, c'est plus vraiment par rapport
Je me rappelle par exemple d'un voyage que j'avais fait avec une amie artiste. On avait fait un voyage à Rome et c'était très drôle parce qu'elle, elle levait toujours la tête en l'air pour voir l'architecture et moi, j'avais toujours le regard qui retombait au sol, en fait. Et j'arrivais pas à me détacher des fragments et des ruines.
Comme quoi,
donc on avait deux visions
ancrées profondément.
Ouais, on avait deux visions totalement différentes de la ville, en fait.
Est-ce que tu dirais que ta carrière, tu l'as vue arriver progressivement, se développer ? Est-ce que tu as été aidée ? Est-ce que tu as senti que tu as été soutenue assez rapidement ? Ou est-ce que tu t'es sentie discriminée parce que tu étais une femme ? Ou est-ce que tu as eu des réflexions qui disaient que ton travail, c'était évident que c'était un travail de femme, que c'était très féminin, parce qu'il y a aussi quelque chose de très raffiné dans ton travail.
C'est un peu particulier le parcours que j'ai eu après les Beaux-Arts, parce que... Et donc, moi, j'avais commencé les trois premières années aux Beaux-Arts de Poitiers, et puis, en fait, l'école ne poursuivait pas jusqu'à la cinquième année en art. Et donc, j'ai été obligée de partir. Et donc, j'ai terminé les Beaux-Arts à Angers. Donc, j'ai fait les deux dernières années à Angers. Et ensuite, je suis revenue à Poitiers. Et j'avais pas forcément envie d'y rester, en fait. J'avais bien aimé déjà l'idée de partir et de voir ailleurs comment ça se passait. Et donc, moi, j'avais très envie de venir à Paris parce que ça m'a toujours... pareil, depuis petite, j'avais très envie de venir au Louvre, de voir tout ce que pouvait offrir Paris en termes de d'exposition, etc. Et donc, après les Beaux-Arts d'Angers, je me suis inscrite donc en fac d'histoire de l'art à Poitiers. Donc j'ai eu une équivalence en maîtrise, mais avec l'idée de faire des stages pour pouvoir repartir, en fait. Et puis, au bout de 3 mois, j'ai fait un stage... dans un centre d'art en Bretagne. Au départ, je voulais faire un stage dans un musée, et puis pour voir comment ça se passait. Et puis en fait, ça n'a pas pu se faire. Enfin, les lettres que j'envoyais n'aboutissaient pas. Et puis un jour, j'ai appelé, je crois que c'était Beaubourg, l'accueil, et ils m'ont dit mais vous devriez envoyer des lettres dans les galeries. Parfois, ils prennent des stagiaires. Et puis donc, je me suis retrouvée à faire un stage dans une galerie à Paris. Et le stage a duré. Plusieurs années, parce que je suis restée, en fait. Ça a été assez complexe, parce que d'un côté, je me retrouvais tout d'un coup au milieu d'un monde que
Le marché de l'art.
Oui, et puis que j'avais envie d'approcher, moi, en tant qu'artiste.
Bien sûr.
Mais en étant complètement en dehors, puisque j'étais, je travaillais dans la galerie, donc j'étais assistante, je n'étais pas du tout artiste. Pour moi, ça me gênait pas tellement, en fait. Il y avait une telle envie de pouvoir rencontrer des artistes que j'aimais, enfin dont j'aimais le travail, de pouvoir discuter, de pouvoir voyager dans les foires, vraiment de me forger un regard en fait, que ça m'a appris beaucoup beaucoup de choses en fait. Pas que le meilleur non plus, mais parce que très vite je me suis rendu compte que toutes les illusions que je pouvais avoir, elles se sont assez vite écroulées en fait. Mais j'ai mené mon travail en parallèle, c'est-à-dire que le fait d'être dans la galerie n'a pas du tout stoppé ma pratique, donc je continue à exposer à côté. Au fur et à mesure des années, j'ai affirmé de plus en plus mon travail. Ce qui était très drôle, c'est que parfois ça croisait un peu les gens qui passaient à la galerie. Donc je me souviens d'une réflexion une fois d'un collectionneur qui m'a dit « Mais vous savez que vous avez un homonyme qui fait de la sculpture ?» Et donc là, ça m'a fait rire, donc, parce que moi je séparais vraiment les deux. Donc, et donc j'ai commencé à me dire que ça commençait à être un peu problématique, puisque les deux commençaient un peu à se croiser. À la fin des années que j'ai passé à la galerie, j'ai pris la décision de partir, en fait. Voilà.
Et pour te consacrer pleinement à ton travail d'artiste.
Exactement. D'accord. Et à ce moment-là, tout s'est ouvert.
Et donc, quand tu as arrêté ce travail, c'était quand même risqué aussi, financièrement, alors.
Ah, complètement, oui. Complètement,
ça a été
complètement acrobatique.
Et ton travail a commencé à être vu quand même.
J'avais déjà fait des expos, donc ça commençait déjà à être vu. Puis quand j'ai quitté la galerie, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Bah oui, je dirais que ça s'est accéléré. D'abord parce que j'ai eu deux expositions dans deux centres d'art. C'était les premières expositions au centre d'art à la chapelle du Généteil à Château-Gontier, puis après au Parvis à Ibos. Donc voilà, donc je les remercie parce que c'est vrai que les soutiens, j'en ai eu, mais il n'y en a pas eu non plus, il n'y en a pas eu des dizaines, quoi.
Et en plus, quand on est invité en centre d'art, c'est une chose magnifique pour la visibilité, mais financièrement, c'est pas simple. Ça permet pas d'en vivre.
Alors le centre d'art, il permet au moins quand même de produire des pièces.
Oui.
Et il donne aussi des honoraires, ce qui est quand même... Enfin, je trouve que c'est quand même une super chance pour un artiste quand il est invité dans un centre d'art.
Bien sûr.
C'est à la fois du temps, c'est un espace, c'est de l'argent.
C'est extraordinaire, ça.
Donc,
c'est sûr.
Et puis ça m'a permis aussi d'avoir une monographie. Donc voilà, je dirais que c'est un peu le moment fort.
Ouais.
Ça a été le moment fort.
Et t'as été repéré dans ce cas-là, ensuite par une galerie ou plusieurs. Comment ça s'est passé ?
Alors, j'avais déjà eu des contacts avec des galeries lorsque moi-même je travaillais dans la galerie encore. Et c'était compliqué parce que justement, le fait que je travaille dans la galerie était problématique.
Bien sûr.
Donc, les galeries qui m'ont approché, en tout cas, étaient très frileuses par rapport à ça. Donc, ça ne s'est pas fait sur le moment, mais ça s'est fait lorsque j'ai quitté la galerie.
Voilà. Donc, tu n'as pas senti qu'il y avait une difficulté particulière parce que tu étais femme ?
Non, pas forcément à ce moment-là. Je dirais que au Beaux-Arts, oui.
Ah, au Beaux-Arts, oui.
Peut-être un travail qu'on juge féminin et donc d'être un petit peu plus attaqué là-dessus. Mmh. Même si ça dépend des pièces, parce que j'ai aussi présenté mon travail dans certaines expositions et on m'a parfois fait la remarque aussi de penser que mes pièces étaient faites par un homme et pas par une femme. Donc j'ai vraiment eu les deux.
Ça, c'est intéressant.
Les deux aspects.
Et c'est justement ça, c'est intéressant, le regard qui est porté. Si les gens ne savent pas qui est l'auteur, il y a une surprise quand ils te découvrent, quand ils découvrent que c'est une femme.
Oui, suivant les pièces, j'imagine, oui. Mmh. Ouais, ouais. Bah, moi, j'aime bien cette idée, justement, que ce ne soit pas genré,
sexe,
en fait.
Voilà.
Moi, j'ai la même approche, en fait, quand je vais voir une œuvre. Je ne cherche pas, en tout cas au départ, à savoir si c'est un homme ou une femme qui l'a réalisée. Je suis devant l'œuvre et elle me parle. Donc, alors, évidemment... Je pense qu'il y a quand même des choses qui filtrent par le fait d'être une femme ou un homme dans la pièce. Mais c'est vrai que j'aimais bien cette ambiguïté, en fait.
Ben oui. Mais en effet, les pièces que tu travailles Parfois, on peut en effet trouver un côté très féminin, très raffiné, très élégant. Et parfois, au contraire, ça pourrait... on n'imagine pas nécessairement que l'auteur est une femme.
Mmh, c'est ça.
Et ça met une sorte de trouble. Mais en fait, le trouble, il est déjà dans ta pièce au départ.
C'est ça.
La plupart de tes pièces ont des sens de lecture un peu variés. Enfin, c'est comme une prise multiple. On peut la lire une fois dans un sens, on peut la lire dans un autre sens. Et puis, peu importe le genre de l'auteur et de... Et peu importe aussi le genre du spectateur aussi, finalement.
Mmh, oui.
Alors, quelles seraient actuellement tes aspirations ? Parce que là, tu viens de réaliser une exposition personnelle dans la galerie avec laquelle tu travailles. Mmh. Et donc, c'est toujours intéressant, une exposition solo comme ça. Donc maintenant, vers quoi t'aimerais déboucher, aller plus loin ?
Bah en fait, j'ai eu aussi une bourse de recherche par la DRAC par rapport à une des pièces qui était dans l'exposition, qui était une pièce que j'ai réalisée avec l'aide d'un souffleur de verre et avec un verre qu'on appelle l'uraline, un verre à l'uranium. Donc un verre qui était très populaire dans les années 20. En fait, lorsqu'on a commencé à s'intéresser justement aux travaux de Marie Curie, à l'uranium, au radium... Qu'on retrouvait à peu près partout, en fait, dans les arts décoratifs, mais aussi dans la nourriture ou dans les cures qu'on faisait au radium, parce que ce matériau évoquait le progrès, comme c'était le cas pour le mercure ou pour l'amiante. Et donc, moi, je me suis intéressée à ce matériau, en fait, qui avait une ambivalence à la fois séduisante et toxique, très toxique. Et avec cette idée de danger, mais qui est un danger invisible, puisque la radioactivité, on la voit pas, en fait. Et ce matériau qui a presque une aura un peu surnaturelle, puisqu'il a la particularité d'être luminescent lorsqu'il est en présence d'une source ultraviolette. Et donc j'ai réalisé une première pièce que je montrais dans l'exposition à la galerie. Et cette première pièce donc est le point de départ d'une recherche qui va m'emmener à la fin de l'année aux États-Unis pour continuer en fait à travailler avec ces objets et ce verre donc à l'uranium.
C'est un beau projet que tu vas poursuivre.
Voilà.
Et une fois de plus, en collaboration avec artisans ou chercheurs.
Exactement. Ouais. Et puis aussi en lien avec des manufactures de céramique et de verre qui existaient dans les années 20 et qui existent toujours. J'en ai trouvé deux, en fait.
Donc là, je pense que notre entretien va arriver à son terme. Et j'aime bien toujours poser la question, quelle est l'œuvre qui t'aurait marqué le plus et qui peut-être, on ne sait jamais, serait à l'origine de ton désir de devenir artiste ou dans ta carrière d'artiste, est-ce qu'il y a eu une œuvre qui un jour t'a produit un choc ou une émotion particulière?
Il y en a plein.
Il y en a plein, oui. C'est
dur de citer une œuvre.
Oui.
Il y a une collection, moi, qui m'a fascinée quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts de Poitiers. On a eu la chance, en fait, en tant qu'étudiant, de faire une exposition à Waron, au château de Waron. Très tôt, du coup, on a pu se rendre là-bas. Et on a pu voir la collection qui avait été faite par Jean-Hubert Martin. Et je dois dire que je pense que c'est peut-être à ce moment-là que j'ai eu envie de me dire que je pourrais peut-être être artiste ou qu'en tout cas j'en avais le désir. Parce que là, c'est un lieu qui, pour moi, m'a vraiment bouleversée, en fait. Aussi bien le lieu que les œuvres. Et puis je découvrais aussi tous ces artistes que je connaissais pas. Donc... je pense par exemple à Hubert Duprat et ses petites larves de trichoptères, donc une œuvre de 2 cm qui m'avait fascinée parce qu'il y a ce rapport justement avec avec l'animal, avec le monstrueux en fait aussi, qui lie avec le précieux puisqu'il en fait des sortes de petites sculptures bijoux d'orfèvrerie. Mmh. Je pense que c'est un peu ce qui m'a donné envie par la suite de travailler avec les abeilles. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose d'assez en hommage à ce que lui avait fait, quoi. Donc il y a beaucoup de pièces à Waron qui sont incroyables. Enfin le mur de Wolfgang Leib aussi, le mur de cire, je ne sais pas, les œuvres de Wim Delvoye, Daniel Spoerry. Enfin il y en a plein. En tout cas dans ce lieu-là, il y en a beaucoup. Et ensuite, ça peut être des œuvres plus classiques. L'Accademia à Venise, il y a ce petit tableau de Giorgione qui s'appelle La Tempête. Un petit tableau qui m'a vraiment, vraiment beaucoup fascinée parce qu'il y a un éclair dans le ciel et on sait qu'il y a un moment qui va basculer, en fait. C'est ce point de bascule dont je parlais tout à l'heure et de suspension avant qu'il y ait quelque chose qui advienne. Et ce tableau-là contient tout ça, en fait. Donc oui, ça peut être... C'est parmi les œuvres de mon musée imaginaire, oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Céline Clairon.
Merci beaucoup, Isabelle.
Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge, le mercredi et le samedi à 14h, la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.